Bienvenue sur The Thinking Gallery, le podcast qui décortique la pensée des leaders d'aujourd'hui afin d'anticiper le monde de demain. Je suis Paul Terrasson-Duvernon et je suis accompagné de mon fidèle acolyte Arthur Derderian. Vous êtes prêts? Abonnez-vous et on vous propose de plonger dès à présent dans The Thinking Gallery.
Alors la réalité virtuelle, c'est les casques que tu peux voir à la Fnac ou chez Darty, la réalité virtuelle, c'est quand tu mets un casque sur la tête et t'es ailleurs. T'es dans un film, t'es dans un jeu vidéo, t'es séparé de ton environnement, et donc d'où le nom réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'on te projette ailleurs. À l'inverse, réalité augmentée, c'est t'es dans ta réalité à toi, tu peux mettre un dispositif sur la tête, mais tu vas rester là, dans la pièce dans laquelle on est, avec ta table basse devant toi, et par-dessus tout ça, on va surimposer des objets 3D. Et là, donc la particularité de Lynx, nous, ce qu'on fait, c'est à la fois la réalité virtuelle et la réalité augmentée dans le même casque.
Ok. Et ça, c'est un enjeu, une difficulté, ou finalement, c'est assez simple, parce que j'ai l'impression que tous les acteurs du marché font ça, mais...
Alors, on a été assez précurseurs là-dessus.
Ok.
Mais globalement, effectivement, on sent qu'il y a une convergence au niveau des dispositifs, au niveau des casques, pour faire ce qu'on appelle la réalité mixte. Donc c'est cette notion de mixer réalité virtuelle et réalité augmentée. En fait, c'est en train de converger vers ce qu'on appelle la réalité mixte. Et c'est très intéressant parce que du coup, tous les casques, donc y compris Lynx, bien évidemment, ils vont pouvoir balayer tout le spectre des technologies immersives. C'est-à-dire qu'avec un casque, tu vas pouvoir avoir droit à toutes les expériences. Donc travailler en réalité virtuelle ou regarder un film et à la fois pouvoir jouer à des jeux vidéo en réalité augmentée. Il faut que tu imagines un Pokémon Go like, mais au lieu d'être avec ton smartphone à bout de bras, t'as un casque beaucoup plus immersif sur la tête.
Arthur mentionnait Apple qui est en train de redynamiser peut-être un peu ce marché. On en est où aujourd'hui sur la VR et l'AR avec les termes anglophones en termes de marché justement? Est-ce que c'est déjà quelque chose qui est vraiment présent dans le quotidien des gens ou pas encore trop?
Alors en fait, il faut comprendre déjà qu'il n'y a pas la même maturité de marché sur le globe. C'est-à-dire qu'aux États-Unis et en Asie-Pacifique, il y a une plus grande maturité sur ces questions-là qu'en Europe. Alors, ça s'explique par plein de faits. Ça s'explique déjà parce que les casques sont chinois ou américains. Donc, dans leur marché local, ils font plus de com, ils sont plus présents, etc. C'est normal. Lynx, on est le seul acteur français vraiment, enfin, seul acteur européen à faire des casques tels qu'on les fait aujourd'hui. Donc, c'est ce que on a un peu de retard de maturité. Mais ça n'empêche pas que ça commence vraiment à devenir un marché très intéressant dans le sens où les casques, de manière générale, commencent à être vendus, surtout en réalité pour des usages de gaming, etc., en dizaines de millions d'exemplaires. Donc ça commence à taquiner doucement, modestement, le marché du smartphone qui, lui, est plutôt en millions d'exemplaires. Mais si tu veux, sur la dernière vague en 2015-2016, c'était des dizaines de milliers d'exemplaires. Et du coup, le monde financier, en fait, qui permet à tout le monde d'exister, disait non, mais en fait, c'est pas un marché, ça va pas être comme les tablettes ou comme le laptop ou comme le...
C'était plus vu comme un gadget, c'est ça?
C'était vraiment vu comme un gadget. C'est encore vu, encore, par beaucoup, mine de rien, même depuis l'arrivée d'Apple, par un gadget. Moi, j'ai des rencontres surréalistes en France avec des fonds d'investissement qui me disent, ah oui, votre gadget, votre casque en plastique, là. Et donc, tu vois qu'il y a un manque de compréhension et d'éducation sur ces questions, alors que pour nous, si tu veux, la réalité mixte, c'est l'interface machine du futur.
Justement, à quoi ça sert aujourd'hui un casque de réalité virtuelle?
Alors, moi, je ne vais pas trop te parler d'un casque de réalité virtuelle. Je vais peut-être te dire la réalité mixte de manière générale. Mais si tu veux vraiment faire que la réalité virtuelle...
Non, mais la réalité mixte.
Alors,
réalité virtuelle comme réalité mixte.
Ok. En fait, ça va te servir en fait, à deux choses. Nous, ce qu'on voit, ce que les gens font avec le casque, c'est à peu près deux choses. Premier truc, c'est le gaming. Et là, c'est la partie réalité virtuelle où le gaming, c'est le truc qui drive le marché, c'est le truc dans lequel il y a de l'argent. Et en fait, quand tu regardes les volumes de vente des casques de Meta, par exemple, et qui sont très orientés gaming, on est sur les mêmes volumes de vente que la dernière Xbox ou même la PS5. Donc, c'est apparenté à une console de jeu, en fait. Donc ça, t'as l'usage gaming et t'as aussi l'usage d'un autre côté du spectre qui touche plus à la réalité augmentée. T'as un usage professionnel, en fait, où moi, j'ai pas mal de clients professionnels dans le militaire, dans le médical, dans l'industrie, qui se servent des technologies immersives pour tout ce qui est formation professionnelle, donc apprendre à faire des trucs, être plus efficace, faire moins d'erreurs, gagner du temps. Formation professionnelle et assistance à distance. Ça, c'est deux gros cas d'usage.
Est-ce que t'as quelques exemples, justement, sur ces dynamiques-là, ces verticales-là?
Ah ouais,
l'utilisation vraiment.
Typiquement, donc je te donne un exemple. La SNCF, par exemple, donc parfois les trains s'arrêtent. Parfois les trains s'arrêtent et on veut pas qu'ils s'arrêtent et du coup ça crée des retards. La SNCF est capable de chiffrer combien ça leur coûte la minute de train arrêté. C'est autour de 140 euros. Donc pour la SNCF, 140 euros par minute par train arrêté, c'est ce que ça leur coûte. Et donc du coup, et surtout, tu sais, au-delà d'un certain délai, tu peux te faire rembourser. Du coup, bah, ils perdent énormément en exploitation sur les trains. Donc tu peux imaginer que il y a une panne sur une motrice et que de TGV ou de TER, j'en sais rien, et que lors de ce problème, il y a le chef de bord ou le conducteur a besoin d'un expert. Et ben, au lieu d'appeler quelqu'un au téléphone et de lui décrire ce qu'il voit sur un panneau électrique avec plein de LED et plein de boutons, il peut mettre un casque sur la tête. Le casque va reconnaître le panneau qu'il est en train de regarder et va lui montrer une procédure où va permettre à l'expert à distance de voir directement le point de vue du gars et lui dire, bah, en fait, c'est ici que tu, enfin, c'est sur tel bouton qu'il faut que tu fasses la manip, etc. Donc, ça fait gagner du temps. Parce que l'expert, il n'a pas besoin d'être envoyé littéralement à l'endroit où le train a un problème ou la machine ou tu vois, ce genre de choses. Donc, en termes de temps d'arrêt des machines ou des trains ou d'autres dispositifs, c'est énorme. Un autre exemple, c'est la formation pour les chirurgiens, pour les médecins, pour les infirmières dans le monde médical. On fait un truc absolument super, notamment avec la PHP, avec le professeur Nataf à l'hôpital Bichat, où en fait, tu peux scanner les gens en 3D maintenant, tu peux faire ce qu'on appelle des captures volumétriques. Donc tu mets des gens dans une salle sur fond vert avec 150 caméras et on scanne une séquence vidéo, mais c'est plus on appelle ça de la vidéo volumétrique. Donc tu as vraiment l'hologramme de la personne en fichier.
Oh, c'est fun ça.
Voilà, et tu le remets dans le casque en réalité virtuelle ou en réalité augmentée. Et du coup, bah, quand tu apprends un geste, donc que ce soit une infirmière qui fait une échographie, donc comment placer la sonde, etc., ou un chirurgien qui fait un geste très précis. Et ben là, tu peux essayer de te calquer sur l'hologramme pour vraiment faire travailler ta mémoire musculaire. T'imagines que c'est beaucoup, beaucoup plus performant que ce que nous, on a appris à l'école en regardant des manuels ou les grands jours, une télé, enfin, tu vois, un écran 2D. Donc, pour que tu sois tanneur de cuir, infirmière, que tu sois technicien qui travaille sur des moteurs, pour te former à faire de nouveaux gestes, te montrer de nouvelles procédures, c'est très, très puissant.
Avant de retourner sur les sujets B2C, est-ce que ça va permettre de révolutionner tous les modes d'enseignement ou alors c'est vraiment sur des métiers très manuels, très artisanaux ?
Alors aujourd'hui c'est sur des métiers relativement manuels en fait, donc parce qu'on va guider des gestes, on va aider des gens dans des procédures qui généralement sont très manuelles. On va essayer d'aider dans de l'inspection. Donc là, tu n'as pas forcément de geste à faire. Tu dois juste savoir regarder, checker des. Voilà, remplir une checklist, etc. On peut imaginer dans un futur, nous, on travaille sur ces sujets-là aussi, que ça va t'aider dans la formation ou à travailler en live avec ce qu'on parlait il n'y a pas longtemps ou avec des agents d'IA connectés au casque et au capteur du casque qui vont t'aider à travailler. Donc, au-delà, dépasser la formation, dépasser aussi la formation technique de gestes. Mais t'aider à peut-être mieux réfléchir en fonction de ton environnement, ce que tu vois sur un écran virtuel ou l'écran de ton ordinateur.
Ça peut paraître un peu futuriste, presque science-fiction, mais justement, à quel point on est proche ou loin de cet assistant connecté devant nos yeux qui nous indique au travail, par exemple, dans une usine, le danger là à droite ou ce genre de choses.
Alors. Il y a deux chantiers là-dedans.
Ouais.
Il y a le chantier donc de l'IA, de cet assistant, et il y a le chantier des casques, de la plateforme sur laquelle ces assistants vont exister. Pour l'IA, en fait, il faut que ce qu'on peut voir aujourd'hui avec des agents conversationnels basés sur des LLM, il faut comprendre que ces assistants vont devoir être avoir une capacité multimodale, c'est-à-dire de. Aujourd'hui, ils prennent souvent du texte en entrée. C'est l'interface la plus simple et qui a permis au truc de se répandre le plus rapidement. Maintenant, en entrée, il va falloir que ces modèles aient le flux vidéo de ce que tu vois à travers le casque et les données d'accéléromètre dans le casque, tes données biométriques en fonction de ce qu'on peut avoir, la position de tes mains, etc. Avant qu'on essaye, il va se passer un peu de temps. Mais on est très surpris par l'industrie de l'intelligence artificielle, je pense que ça arrive beaucoup plus vite que prévu. En tout cas, c'est des trucs sur lesquels nous, on travaille et on a des, on est entouré de boîtes qui bossent là-dedans, pour le moment étrangères, j'espère bientôt françaises.
T'as regardé 22 en France ou pas?
Ouais, bien sûr. Hein.
Ouais.
Bah, William, avec eux,
Eldin.
William, ouais. etc. Enfin, c'est,
on l'a reçu à ce même micro. Avec son compère William Simonin, sur le côté justement vocal également avec Vivoca.
Ouais, bah, on travaille avec Vivoca en fait. Ouais. On a intégré Vivoca dans le casque pour vous donner une idée. Ça marche, franchement, ça marche extrêmement bien. Je leur fais un peu de pub, mais, c'est agréable d'avoir un assistant vocal, enfin, tu vois, de la reconnaissance vocale qui fonctionne. C'est-à-dire, généralement, tu répètes les trucs et tout. Enfin, bah, Siri, ça marche pas hyper bien. Voilà, très bien. Et Vivoca, ça marche extrêmement bien. Et donc, on travaille sur tous ces sujets. Sachant que nous, chez Lynx, on est vraiment la plateforme. Tu vois, on est le hardware de base et le SDK sur lequel les gens vont faire des applis, vont faire ces assistants. Nous, on est vraiment à la poignée de l'éventail.
C'est un peu une plateforme de lancement, quoi, en gros, vers tous ces...
Voilà, après, les applications verticales et les assistants, les services qui vont venir, ça va être tout un écosystème d'entreprises qui vont se greffer là-dessus. Bon, il y a Vivoca, par exemple, on l'a cité, il y en a plein d'autres. Mais nous, ce qu'on essaie vraiment de créer avec Lynx, c'est ce champion européen des technologies immersives qui amène, au même titre que Meta, que HTC, un écosystème avec un casque, voire plusieurs dans le futur, sur lesquels tu vas pouvoir... faire tout ça. Nous, on est des enablers, tu vois.
Peut-être la brique hardware, voilà. Quoi, vraiment.
Ouais, la brique hardware et donc la brique avec l'App Store, l'OS.
Même s'il y a du soft derrière, on l'oublie parfois, mais beaucoup.
Il y a beaucoup plus de gens qui font du soft chez Lynx que du hardware, au final. Parce que quand tu fais du hardware, tu fais beaucoup de software. Et quand tu fais des OS comme le nôtre, c'est... Tu vois, donc, on compile notre OS qui est basé sur AOSP, donc c'est Android sans la surcouche Google, avec nos drivers, nos trucs. Enfin, c'est un truc d'énorme brute.
Solide, ouais.
C'est très solide. Voilà, énorme respect pour mon équipe que je représente. Mais faut
vous êtes combien aujourd'hui?
Ouais, aujourd'hui on est une petite trentaine avec et on a aussi une présence à Taïwan et donc le but après c'est d'avoir aussi une petite présence aux États-Unis pour nos partenariats comme Qualcomm et certains de nos clients là-bas. Voilà.
Tout à l'heure, t'as dit que c'était le début de l'apprentissage. Des métiers manuels, en tout cas le début de l'apprentissage via les métiers manuels. Ouais. Est-ce que tu penses que ça va se déployer sur tout type de métier et que demain, presque l'école, au sens classique du terme, se fera avec de la VR ou pas?
Alors ça, j'en suis convaincu, mais attention, en fait, le casque va, enfin, les casques, aujourd'hui ça ressemble à des casques, bientôt ça ressemblera à autre chose, mais les casques ne vont pas remplacer les autres interfaces machines qu'on a autour de nous. Je pense pas que, au même titre que le smartphone n'a pas remplacé le laptop n'a pas remplacé le desktop, etc. C'est un nouvel écran, c'est une nouvelle manière d'interagir. Ça va pas pour autant cannibaliser d'autres interfaces. Donc oui, tu vas le voir dans des écoles. Bah, par exemple, la Belgique nous en a commandé 1000 Lynx pour mettre dans leur lycée professionnel et leur centre de formation d'éducation supérieure.
Ok. Donc, pour faire quel type de formation?
Bah ça, enfin franchement, c'est très divers. C'est formation de ébéniste, technicien.
Mais donc plutôt des trucs très où on utilise ses mains.
Voilà, donc pour le moment très manuel où tu vas, enfin, on utilise ses mains et même tout son corps de manière générale. Des métiers manuels. Enfin c'est manuel, mais tu vois c'est quand même des niveaux qui vont jusqu'au technicien, voire même un peu au-delà. Mm-hmm. Et pour répondre à ta question, oui, ça va se généraliser à tout un tas d'apprentissages. Je pense que la réalité mixte. C'est comme technologie, c'est une des meilleures technologies pédagogiques au monde. Pour t'expliquer des concepts, pour te faire passer des idées, c'est beaucoup plus efficace qu'un manuel ou que regarder un simple film en 2D quand t'es capable d'interagir. Tu vois, on a une démo très simple qui a beaucoup tourné sur Internet. On a une démo où t'as le système solaire devant toi. Et quand tu bouges le soleil, bah, tu comprends que ça fait bouger toutes les planètes dans le système solaire. Parce que le champ gravitationnel... voilà. Et toi, tout de suite, en 3 secondes, t'as compris l'interaction du champ gravitationnel entre les planètes. Alors que t'es en 3e et en cours de physique, on te donne une formule, on te dit, bah voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais quand tu le vois, tu vois, quand tu vois un jeune qui apprend ça en interagissant directement, tu le retiens beaucoup mieux. Ça change absolument tout. Et bah ça va, en fait, pour les générations futures, ça va descendre le niveau de ce qu'on appelle complexe. Genre, les jeunes, ils vont, plus tard, quand ils vont justement utiliser ces modalités d'interface, type la réalité mixte, ce qui était complexe pour nous va être beaucoup moins complexe pour eux. Et ce qui va être complexe pour eux, je ne sais même pas à quoi ça va ressembler. Mais c'est très intéressant, en fait, d'avoir ce genre d'impact, en fait, avec cette techno.
Et pour les travailleurs un petit peu plus cadres qui utilisent beaucoup plus la matière grise, même si c'est pas le bon mot, parce que quand tu fais un métier manuel, que tu es artisan, tu utilises vachement ton cerveau. Mais quand tu restes derrière ton bureau, Est-ce que tu vas avoir besoin d'un casque de VR? Est-ce que ça a des applications ou pas?
Bah, aujourd'hui, dans le monde professionnel, si tu veux, justement, j'étais à une réunion avec tout un tas d'industriels français, genre Airbus, Renault, le CEA, etc. Les utilisateurs aujourd'hui de ces technos dans ces boîtes-là, dans ces entités-là, ce sont des ingénieurs, ce sont des cols blancs qui passent leur vie derrière leur ordinateur généralement. Et là, les casques, les interfaces de réalité virtuelle et de réalité augmentée vont leur permettre de faire des choses qu'ils font aujourd'hui sur ordinateur de manière plus efficace et en collaboration dans un espace 3D. Je te donne un exemple. Revue de design d'une nouvelle voiture ou d'un nouvel avion chez un industriel. Et bah, quand tu as devant toi la maquette à l'échelle 1-1, que tu n'as pas besoin de construire physiquement parce qu'elle est virtuelle, mais elle est dans l'environnement, avec la bonne luminosité, la bonne texture, etc., en situation, ça va beaucoup plus vite, ça permet à tout le monde de se mettre d'accord.
C'est une économie de malade.
C'est une économie de taré. Ça existe aujourd'hui. Okay. Donc chez les industriels français et à l'étranger.
Tu peux en citer PSA fait ça.
Par exemple, PSA fait de la revue de design en réalité virtuelle. Donc ils n'utilisent pas encore les casques Lynx, mais ça ne saurait tarder. Il y a aussi, faut comprendre aussi que ce que tu appelles les métiers moins manuels, ils utilisent aussi la réalité virtuelle et la réalité augmentée pour se former aussi. Et c'est eux qui vont... je te donne un exemple, mais nous, on utilise la réalité virtuelle aussi chez Lynx, pas pour travailler sur nos casques futurs.
J'allais te demander comment toi, tu utilises la réalité virtuelle.
Alors, moi, j'utilise la réalité virtuelle...
Tu l'utilises ?
Alors, j'utilise dans mon... Alors déjà, oui, je l'utilise parce que je mets beaucoup de casques sur la tête toute la journée. Ça fait partie de mon métier. Mais nous, chez Lynx, on se sert de la réalité mixte pour évaluer beaucoup de systèmes, en fait.
Ok.
Donc, c'est-à-dire, on reçoit un accessoire, un stylet, un contrôleur, un gant haptique, une veste haptique. On va voir si ça se plug bien sur notre casque. On va faire en sorte que ce soit compatible. Donc, c'est vraiment pour faire progresser notre plateforme. Et après, l'usage de la techno en tant que tel, on s'en sert pour modéliser des trucs en 3D et avoir l'échelle. Tu vois, par exemple, là, on est en plein dans la version 2 du casque qu'on target pour l'hiver 2024. Donc, c'est le hardware, tu dois t'y prendre longtemps à l'avance. On est en plein dedans, là. Et donc, pour te rendre compte de l'échelle 1-1 du casque, du produit, avant qu'il arrive et qu'il sorte d'usine dans très longtemps, on l'a à l'échelle 1-1, en réalité mixte, dans le bureau, sur la table devant toi. Et ça te permet de te rendre compte de la taille de l'objet par rapport à d'autres objets, de la texture, de certains matériaux. Donc, c'est vraiment très puissant pour ça.
J'aimerais revenir sur justement le changement de paradigme que tu évoquais avec les IHM, donc ces interfaces qui permettent de communiquer avec une machine. Donc c'est vrai qu'on a commencé avec des écrans bien cathodiques, on est passé au digital, maintenant on l'a dans nos poches. Comment on en arrive à se dire on va mettre des écrans devant sur tes yeux? J'ai vu un mème assez marrant posté par Elon Musk il y a pas longtemps à ce sujet-là. Quels avantages vraiment ça procure aujourd'hui aux utilisateurs par rapport à une interface plus classique qu'on aurait en main ou sur un bureau?
Bah déjà, je pense que la stéréoscopie, enfin le fait de voir des choses en 3D incrustées dans ton monde ou dans un monde virtuel dans lequel tu interagis à la première personne, c'est beaucoup plus puissant et intéressant que de piloter ça à travers un ordinateur où en fait t'es très éloigné de ce qui se passe virtuellement. Il y a un truc, moi, qui m'a pas mal marqué par rapport à ces interfaces, et ce changement de paradigme, c'est que, tu vois, en réalité virtuelle, avec nos casques aujourd'hui, on pourrait te montrer un tableau qui est au mur, qui n'est pas vraiment là. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu vas dans la rue et que tu demandes aux gens c'est quoi quelque chose de réel et c'est quoi quelque chose de virtuel.
Ah, ça, c'est intéressant.
Quelque chose de virtuel, pour nous aujourd'hui, quelque chose de virtuel, c'est quelque chose qui n'est pas réel. Tu demandes aux gens, c'est opposé. Et je pense que les technologies immersives, au sens large, vont faire disparaître ça. C'est-à-dire que pour les prochaines générations, c'est pas parce que t'as un objet virtuel sur la table que pour eux, il a pas une fonction et il est pas réel du coup. Et donc, on va vraiment amener ce flou, on va vraiment flouter ce qui est réel et ce qui est virtuel. Donc, il y a tout un tas de risques liés à ça derrière. Des risques éthiques sur la moralité de ce qu'on fait croire aux gens finalement, parce qu'au final, le cœur de notre métier, c'est l'illusion. C'est de te faire croire que t'es ailleurs ou de te faire croire qu'il y a des choses
dans la place de l'information du
voilà,
coup
donc, et en fait aujourd'hui l'information virtuelle elle est pas réelle dans le sens on pense que c'est sur internet ou dans le metaverse comme les gens aiment bien dire, mais je pense que ça va se flouter de plus en plus.
Et les deepfakes, ça te fait peur ou pas?
Bah, les deepfakes, typiquement, c'est une forme de réalité augmentée. Ouais. C'est-à-dire que tu... Enfin, pour moi, c'est vraiment une réalité augmentée.
Tu te fais avoir par des deepfakes?
Ah, mais carrément. Enfin, je pense que c'est... On est à un niveau extrêmement convaincant aujourd'hui.
Moi, je me fais avoir. Ouais. Moi, j'ai mis du temps à...
C'est presque pas normal de pas se faire
avoir.
À savoir
que le pape en Balenciaga, c'était faux. Tu vois, pour moi, c'était 100% crédible. Tu vois. Ouais, on lui avait offert une doudoune, il avait trouvé ça stylé, il s'est dit let's go. Après tout, pourquoi pas, tu vois.
Alors, pourquoi pas
Après, je suis peut-être un peu naïf, c'est vrai.
Non, non, imaginez qu'on ait un pape stylé, ce serait effectivement... ça te donne de l'espoir. Mais non, je me fais avoir par les deepfakes. Et c'est marrant parce que les deepfakes, tu vois, ça me fait penser à un truc où à chaque fois qu'il y a une technologie qui trouve un usage, le nom disparaît.
Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur votre plateforme préférée, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et surtout, si l'épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'hésitez plus et partagez-le lui tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. À très vite.